Chapitre 23. Le cinquième, je vous le concède. Au sommet d'une butte herbeuse, montée sur sa jument brume, Egwene regardait les flots d'Aiel qui se déversaient de la passe de Jangai. Comme souvent, être en selle avait fait remonter sa jupe au-dessus de ses genoux, mais elle ne s'en formalisait plus. Car enfin, on ne pouvait pas passer son temps à s'occuper de ces détails. De plus, elle portait des bas, alors. À ses pieds, les Aiel défilaient par tribus, clans et ordres de guerriers. Des milliers d'hommes et de femmes, avec leurs chevaux de bât et leurs mules, et les gars Ishain, qui s'occuperaient de l'intendance pendant que les autres iraient se battre. Une marée humaine, une nation en marche, même si les enfants manquaient à l'appel, qui s'étendait sur près d'une demi-lieue, sans compter les gens qui étaient encore dans la passe et ceux qui se trouvaient déjà hors de vue, loin devant. À cet endroit, la piste de la soie était jadis une vraie route large de plus de 50 pas et couverte de pavés. Une voie qui coupait bien droit à travers les collines, afin de rester en permanence à niveau. Bien que les Aiel préfèrent marcher sur l'herbe, ils étaient obligés d'emprunter la route, rendant très difficile de voir qu'elle était en fort mauvais état, avec des pavés soulevés ou au contraire enfoncés d'un côté. Depuis plus de 20 ans, le trafic s'était réduit à quelques charrettes de paysans et une poignée de chariots. Egwene trouvait presque surprenant de revoir de vrais arbres, des chênes et des lauréoles regroupés en bosquets, pas seulement des végétaux solitaires et rabougris, et de l'herbe assez luxuriante pour moutonner au gré de la brise. Au nord, il y avait même une authentique forêt, et des nuages dérivaient dans le ciel. Après le désert des Aiel, l'air paraissait délicieusement frais et humide. Pourtant, à voir la couleur des feuilles et de certaines étendues d'herbe, il devait faire plus chaud et plus sec que la normale saisonnière, de ce côté du mur du dragon. Au nord, passant sous un petit pont plat, un cours d'eau serpentait, non loin du lit desséché de ce qui semblait bien être un affluent. Dans cette direction, à quelques lieues, se trouvait la rivière Gaelin. Egwene se demanda comment les Aiel réagiraient devant cet obstacle liquide. Déjà, le cours d'eau suscitait une stupeur sans nom chez les guerriers et les promises, qui marquaient une courte pause respectueuse avant de l'enjamber sans difficulté. Dans une cacophonie de grincements, les chariots de Cadéré perdaient du terrain sur les Aiel, malgré les efforts de leurs attelages. La traversée de la passe, extrêmement sinueuse, avait pris 3 jours, et Rand semblait décidé à s'enfoncer autant que possible au cœur du Caerien avant la tombée de la nuit. Moiraine et Lan chevauchaient avec les chariots. Pas en éclaireur, ni même au niveau de la roulotte blanche du colporteur, mais à côté du deuxième véhicule où le portique distordu, un terrangréal, était solidement attaché et protégé par une bâche. Dans cette caravane, une partie du chargement était soigneusement emballée ou rangée dans les coffres et les tonneaux que Cadéré avait apportés dans le désert, plein des marchandises qu'il entendait vendre, et une autre était au contraire constituée d'une incroyable collection d'objets en métal ou en verre entassés les uns sur les autres à la va-vite. Dans le lot, il y avait un fauteuil en cristal rouge, 2 statuettes représentant un homme et une femme nus, des bâtons d'ivoire ou d'os, et toutes sortes d'artefacts indéfinissables, souvent taillés dans une mystérieuse matière noire. Face aux 3/4 de ces trésors, Egwene aurait été incapable de commencer à dire à quoi il servait. Mais Moiraine avait tenu à emporter le plus de choses possible, tant qu'il restait de la place dans le chariot. Pourquoi s'intéressait-elle de si près au deuxième véhicule de la file? Personne d'autre, peut-être, n'avait remarqué son manège. Mais Egwene n'était pas dupe. Hélas, elle ne connaîtrait pas la réponse de sitôt. Sa toute nouvelle égalité avec la Aes Sedai restait très théorique, ainsi qu'elle l'avait découvert en posant la question, alors qu'ils chevauchaient encore tous dans la passe. Son imagination lui jouait des tours, avait affirmé Moiraine. Et si elle était assez désœuvrée pour pouvoir l'espionner, une petite conversation avec les matriarches et le problème serait sans nul doute résolu. Bien évidemment, Egwene s'était excusée platement, et l'Aes Sedai avait dû se laisser adoucir, car Amis et les autres, depuis, ne prenaient pas plus qu'avant sur son temps de sommeil. Une 100aine de Fardareis Maïta-Ardad cheminaient sur la route à côté d'Egwene. Leur voile abaissée, certes, mais un carquois plein à la hanche, certaines brandissaient leur arc de corne incurvé, une flèche encochée, alors que d'autres le gardaient dans l'étui attaché à leur dos, afin d'avoir les mains libres pour leurs lances et leurs rondaches. Derrière les guerrières, une 10aine de Gaishain, tenant des mules par la bride, tentaient de ne pas se laisser distancer par le rythme frénétique des promises. Parmi ses serviteurs, un seul ne portait pas du blanc. Une seule, plutôt, Isandre, qui continuait à expier ses crimes en travaillant comme 4. Egwene repéra Adeline et 3 ou 4 autres promises qui gardaient sous ses ordres la tente de Rand, la nuit de l'attaque. Toutes trimbalaient en plus de leurs armes une poupée de chiffon en jupe et chemisier blanc. Plus impassible encore que d'habitude, elle réussissait à faire semblant de rien, Enfin, elle le croyait. Et Gwen ne connaissait pas le fin mot de cette histoire. Une fois leurs diverses missions accomplies, les guerrières impliquées dans l'affaire étaient venues voir Beyr et Amys, passant un long moment avec elles. Le lendemain matin, avant même les premières lueurs de l'aube, elles avaient entrepris de confectionner les fameuses poupées. Sans oser les interroger sur cette bizarrerie, Egwene s'était permis un commentaire devant Maïra, une tomanelle rousse du clan Serail. La poupée, avait répondu la femme d'un ton qui n'incitait pas à continuer la conversation, servirait à lui rappeler qu'elle n'était plus une enfant. Une des promises à poupées avait 16 ans, certes, mais Maïra était au moins de l'âge d'Adeline. Bref, ça n'avait guère de sens, et c'était très frustrant. Chaque fois qu'Egwene pensait avoir compris la culture Aiel, un événement lui démontrait qu'il n'en était rien. Bien malgré elle, Egwene tourna la tête vers la sortie de la passe, derrière elle. La rangée de pieux était toujours là, s'étendant d'un flanc de la montagne à l'autre, sauf aux endroits où les Aiel avaient ménagé des trouées à coups de pied. De ce côté du mur du dragon, Kouladin avait laissé un autre message. Des hommes et des femmes empalés sur le chemin des Chaïdo, et qui pourrissaient au soleil depuis 7 jours. Sur la droite, les grands remparts de Céléane s'accrochaient à la montagne, mais on n'y distinguait pas le moindre signe de vie. Selon Moiraine, la ville n'était plus que l'ombre de sa splendeur passée, mais elle restait une cité de très bonne taille, assurément plus grande et bien plus prospère que Taïen. Eh bien, il n'en restait rien. Et pas de survivants non plus, sauf les gens que les Chaïdo avaient enlevés, et quelques fugitifs, probablement partis pour des régions plus hospitalières. Sur les collines, des fermes se dressaient à intervalles réguliers. Mais si la plus grande partie de l'est du Caerien avait été abandonnée après la guerre des Aiel, une cité continuait d'avoir besoin de nourriture. Après le passage de Kouladin, il ne restait plus que des ruines carbonisées. Et plus rien qui vive, à part les mouches qui bourdonnaient sur les carcasses des moutons et des vaches abattues pour le plaisir de semer la terreur. Dans les poulaillers, il ne restait plus une volaille, et tous les champs et pâturages, comme la colline où chevauchait Egwene, avaient été brûlés. Kouladin et les Chaïdo étaient des Aiel. Oui, comme Avienda, Beyr, Amys, Meleyn et Rouark, l'homme qui pensait à une de ses filles dès qu'il voyait Egwene. Ces Aiel-là avaient été révulsés par le massacre. Cela dit, ils semblaient penser, intimement, que les tueurs d'arbres méritaient un sort à peine plus clément. Au fond, le seul moyen de comprendre les Aiel, c'était peut-être d'en être un, ou une, dans le cas d'Egwene. Après avoir jeté un dernier regard à la ville martyre, Egwene chevaucha jusqu'à la clôture du pâturage où elle s'était permis une pause, se pencha pour ouvrir le portail et, par la force de l'habitude, faillit le refermer une fois qu'elle fut sortie. Dire que Moiraine avait émis l'hypothèse que Céléane puisse se rallier à Kouladin. Pas une absurdité en réalité, si le Chaïdo avait laissé le choix aux gens. Entre un envahisseur Aiel et un homme qui avait envoyé des Théariens aux Caerien, des Théariens, rien ne disait que la balance aurait penché du côté de Rand. Et Gwen remonta la large route jusqu'à ce qu'elle ait rattrapé son ami d'enfance, porteur de sa veste rouge en ce jour, puis se joignit à Avienda, Amys, Beyr, Meleyn et une trentaine d'autres matriarches qu'elle ne connaissait pas et qui suivaient toutes de près le Karakarn. Avec son éternel chapeau et sa lance à hampe noire, Matt chevauchait, tout comme Jacin Nathael, l'étui de sa harpe accroché dans le dos et l'étendard rouge calé dans un de ses étriers. Des flots d'Aiel à pied dépassaient cependant les cavaliers qui allaient au pas pour suivre Rand. Tenant son étalon par la bride, celui-ci conversait avec les chefs, et il semblait d'humeur à flâner. En jupe ou non, les matriarches ne se seraient laissés distancer par personne, si elles n'avaient pas tenu à suivre le jeune homme comme son ombre. S'apercevant à peine de l'arrivée des Gwen, elles se concentraient sur le jeune homme et les 6 chefs, tendant le cou pour entendre ce qu'ils disaient.
« Et quiconque franchira la passe après Timolan ?» devra recevoir le même message,
était en train de dire Rand d'un ton très ferme. Un rapport des chiens de pierre laissé en arrière-garde à Taïen indiquait que les Miagoma étaient entrés dans la passe la veille.
Je suis venu pour empêcher Kouladin de piller ce pays, pas pour participer à la radia.
Un message dur à entendre, dit Baël. Et pour nous aussi, si tu entends nous interdire de prendre le 5e.
Han, les autres chefs et même Rouark acquiescèrent.
Le 5e, je vous le concède. Comme s'il s'agissait d'un impôt.
Rand n'éleva pas le ton, pourtant ses mots avaient la puissance du tonnerre.
Mais ça n'englobe pas les vivres, compris? Nous subsisterons avec ce que nous pourrons chasser, cueillir ou acheter, s'il reste des marchands, tant que je n'aurai pas forcé les Théariens à augmenter leur aide alimentaire. Si un Aiel prend un sou de plus que le 5e, ou une miche de pain sans l'avoir payé, ce sera la pendaison. Idem s'il brûle ne serait-ce qu'une cabane, parce qu'elle appartient à un tueur d'arbres. Ou s'il tue quelqu'un qui ne menaçait pas sa vie.
« Ce sera dur à annoncer aux tribus, »
dit Déharic, presque aussi ombrageux que Rand.
« Je suis ici pour suivre celui qui vient avec l'aube, pas pour materner les parjures. »
Baël et Djeran parurent vouloir renchérir sur cette déclaration. S'apercevant qu'ils risquaient d'être d'accord pour une fois, ils s'abstinrent de tout commentaire.
« Déharic, grave bien mes paroles dans ton esprit. Moi, je suis ici pour sauver ce pays, pas pour finir de le dévaster. Et ce que je dis vaut pour toutes les tribus, y compris les Miagoma et tous les autres Aiel qui pourraient suivre. Toutes les tribus. C'est bien compris ?»
Cette fois, personne ne parla, et Rand sauta en selle, puis laissa Jéhadéen avancer parmi les chefs, tout aussi impassible que d'habitude. Et Gwen en resta ébahie. Tous ces hommes, assez vieux pour être le père de Rand, étaient les chefs de leur peuple, l'équivalent de rois, malgré leur dénégation, et des rois ayant acquis leur expérience à la dure sur les champs de bataille. Rand, lui, était hier encore un gamin, et pas seulement à cause de son âge, un jeune homme plein d'espoir qui posait des questions, pas un dirigeant qui entendait être obéi. Désormais, il changeait trop vite pour qu'Egwen puisse suivre le rythme. Une très bonne chose, si ça l'aidait à empêcher ses chefs de faire subir à d'autres villes le sort que Kouladin avait réservé à Tayen et à Céléan. Au moins, on pouvait voir les choses comme ça. En regrettant cependant, comme Egwen, que le jeune homme se montre de plus en plus arrogant de jour en jour. D'ici peu, exigerait-il qu'elle lui obéisse à l'instar de Moiraine? Voudrait-il que toutes les Aes Sedai se soumettent? Il fallait vraiment espérer que ce ne soit que de l'arrogance. Désireuse de converser un peu avec Avienda, elle sortit un pied de son étrier et tendit une main pour inviter Laiel à monter derrière elle. Mais l'ancienne guerrière refusa d'un signe de tête. L'équitation ne lui plaisait guère, c'était vrai, et la meute de matriarches qui l'entourait ne devait pas l'encourager à se distinguer par des fantaisies. Certaines de ces femmes n'auraient pas accepté de monter à cheval, même les deux jambes cassées. Avec un soupir, Egwen sauta à terre, prit Brume par la bride et releva ses jupes en marmonnant entre ses dents. Les bottes souples montantes qu'elle portait semblaient confortables, et elles l'étaient, mais pas pour marcher longtemps sur une route pavée.
« C'est vraiment lui le chef ?»
dit Egwen à Avienda. Laiel détourna à peine les yeux du dos de Rand.
« Je ne le connais pas, et je ne peux pas le connaître. « Regarde ce qu'il porte !»
Elle parlait de l'épée du jeune homme, bien sûr. À vrai dire, il ne la portait pas vraiment, puisque l'arme glissée dans un fourreau ordinaire en cuir de sanglier pendait au pommeau de sa selle. La longue poignée, couverte du même matériau, atteignait la hauteur de sa taille. Pendant la traversée de la passe, il avait chargé un survivant de Tayen de lui fabriquer la poignée et le fourreau. Pourquoi avoir fait ça, alors qu'il pouvait invoquer une épée de flamme, et d'autres armes qui faisaient passer la plus terrible lame pour un jouet ?
C'est toi qui la lui as donnée, Avienda.
Laiel eut un regard noir.
Il a tenté de me faire accepter la poignée également. Mais il s'en est servi, donc elle est à lui. Il s'en est servi devant moi, comme pour me narguer en ayant une épée au poing. Tu n'es pas en colère à cause de l'épée.
En tout cas, Avienda n'avait pas évoqué ce sujet-là, cette fameuse nuit sous la tente de Rand.
En revanche, tu lui en veux toujours de t'avoir très maltraité, et je te comprends. Je sais qu'il regrette. Parfois, il parle sans réfléchir, et si tu voulais bien le laisser s'excuser. Je ne veux pas de ses excuses. Je ne veux pas. C'est insupportable. Pas question que je dorme plus longtemps sous sa tente.
Avienda prit le bras d'Egwen. Si elle ne l'avait pas mieux connu, la jeune femme aurait juré que Laiel était au bord des larmes.
Egwen, tu dois leur parler en ma faveur. Amis, Beyr et Melaine t'écouteront. Après tout, tu es une Aes Sedai. Il faut qu'elle me laisse revenir sous leur tente. Il le faut.
« Que faut-il donc ?»
demanda Soriléa, qui s'était laissée distancer par les autres matriarches, pour cheminer avec les deux jeunes femmes. La matriarche de la forteresse Shende avait des cheveux blancs épars, la peau tendue à craquer sur le visage, et des yeux verts d'une clarté et d'une limpidité extraordinaires, du genre qui semblait pouvoir foudroyer un cheval à 10 pas. Et elle regardait tout le monde comme si elle avait cette intention. Du coup, quand elle était en colère, les autres matriarches filaient doux, et les chefs trouvaient une excuse pour s'en aller en douce. Mais Lane et une autre matriarche du clan de l'eau noire des Nakai rejoignirent le petit groupe.
« Si tu ne passais pas ton temps à rêver à ton nouveau mari, »
dit Soriléa à Melaine, la giflant du regard,
« tu saurais qu'Amis veut te parler. Et à toi aussi, Iron. »
Melaine s'empourpra et fila comme le vent. Mais malgré son grand âge, Iron rejoignit plus vite qu'elle le gros des matriarches.
« Voilà, nous allons pouvoir parler tranquillement, »
fit Soriléa.
Avienda, tu ne veux pas faire quelque chose? En dépit d'un ordre qu'on t'a donné, bien entendu. Et tu penses que cette gamine à Esedaï peut plaider ta cause? Sorilea, je...
Avienda n'eut pas l'occasion de continuer.
De mon temps, une fille sautait quand une matriarche lui disait « saute ». Et elle continuait jusqu'à ce qu'on lui permette de s'arrêter. Comme je suis encore vivante, nous sommes toujours de mon temps. Dois-je me montrer plus explicite?
Avienda inspira à fond.
Non, Sorilea,
dit-elle piteusement. La vieille femme posa ses yeux assassins sur Egwen.
Et toi, vas-tu implorer qu'on lui épargne un sort injuste? Non, Sorilea,
souffla Egwen, se demandant si elle n'allait pas se fendre d'une révérence.
Très bien,
fit la matriarche, sans jubiler, simplement comme si elle ne s'était jamais attendue à un autre résultat.
Donc, je peux aborder le sujet qui m'intéresse. On dit que le Karakarn, Avienda, t'a offert un présent d'inclination hors du commun. Un bijou lesté de rubis et de pierres de lune.
Avienda sursauta comme si une souris venait de s'introduire sous sa jupe. Enfin non, une souris ne lui aurait pas fait cet effet-là, mais Egwen, elle, aurait sursauté face à un tel assaut. Trébuchant sur les mots tant elle voulait parler vite, Avienda éructa des explications confuses au sujet de l'épée de la manne et du fourreau. En ajustant son châle, Sorilea râla d'abondance sur les filles qui portaient une épée, même enveloppée dans des couvertures, et promit qu'elle en toucherait un mot à la jeune Beir.
Ainsi, il ne s'agit pas d'inclination. Quel dommage. Ça le lierait à nous. À ses yeux, trop de gens sont les siens, désormais.
Sorilea étudia Avienda de pied en cap.
Il faudra que je te présente à Ferran. Son grand-père est le fils de ma sœur. Tu peux servir bien mieux ton peuple qu'en devenant une matriarche. Avec des hanches pareilles, on fait des enfants.
Avienda trébucha sur un pavé relevé et manqua s'étaler de toute sa longueur.
Je penserai à lui quand le moment sera venu. Il me reste tant à apprendre pour devenir une des vôtres. Et Ferran est un Seyadoun, et les yeux noirs ont juré de ne plus dormir sous un toit ou une tente tant que Kouladin serait de ce monde.
Kouladin était lui aussi un Seyadoun. La très vieille matriarche acquiesça comme si tout était réglé.
Toi, jeune Aes Sedai, on dit que tu connais bien le Karakarn. Mettra-t-il sa menace à exécution? Ira-t-il jusqu'à faire pendre un chef? Eh bien, c'est très possible.
Plus vite, Egwen ajouta.
Mais je suis sûr qu'on peut le ramener à la raison.
Elle n'en était pas sûre du tout. De plus, était-ce vraiment ça la raison? Au fond, la position de Rand était juste. Mais si les autres Aiel se tournaient contre lui, comme les Shaido, quel bien cela lui ferait-il? Sorilea dévisagea la jeune femme sans dissimuler sa surprise. Puis elle posa sur les chefs qui marchaient autour du cheval de Rand un regard assez furibard pour les renverser comme un jeu de quilles.
Tu m'as mal comprise. Il va montrer à cette meute de loups galeux qu'il est le mâle dominant. Un chef doit être plus dur qu'un homme ordinaire, jeune Aes Sedai. Et le Karakarn plus dur que tous les autres chefs. Chaque jour, quelques hommes de plus, et même des promises, sont frappés par la sidération. Mais ils ne sont que l'écorce friable d'un tronc d'ostrière plus dur que le fer. Quand on retire l'écorce, il reste un bois impossible à fendre. Et Randaltor doit être encore plus résistant s'il veut diriger ses hommes.
Et Gwen nota le « ses hommes ». À l'évidence, Sorilea n'incluait pas les matriarches dans le lot des gens que Rand avait à diriger. En marmonnant au sujet des loups galeux, Sorilea alla rejoindre les autres matriarches, qui se mirent aussitôt à l'écouter religieusement. Hélas, rien de ce qu'elle dit n'était compréhensible de si loin.
« Qui est Ferran ?»
demanda Egwen à son ami.
« Je ne t'ai jamais entendu prononcer son nom. À quoi ressemble-t-il »
Les yeux rivés sur le dos de Sorilea, à demi cachés par le cercle des femmes, Avienda répondit assez distraitement.
Il ressemble à Rouark, en plus jeune, en plus grand et en plus beau. Et aussi en plus roux. Depuis un an, il essaie d'attirer l'intérêt des Naïla. Mais elle préféra lui apprendre à chanter plutôt que d'abandonner la lance pour lui. Je ne comprends pas. Entends-tu le partager avec Naïla?
Poser une telle question avec tant de nonchalance faisait toujours un peu drôle. Avienda faillit de nouveau s'étaler.
Le partager? Je ne veux rien de lui. Il est beau, c'est vrai. Mais il rit comme un âne qui braie. Et en plus... il se cure sans arrêt les oreilles. D'après ce que tu as dit à Sorilea, j'ai cru que... eh bien, qu'il te plaisait. Pourquoi ne lui as-tu pas tenu le même discours qu'à moi?
Avienda eut un rire étranglé.
Et Gwen, si elle pense que j'essaie de passer entre les gouttes, si j'ose dire, elle fabriquera la couronne nuptiale elle-même et nous forcera à nous unir, Ferran et moi. As-tu déjà vu quelqu'un refuser quelque chose à Sorilea? En serais-tu capable?
Et Gwen ouvrit la bouche pour dire que ça ne lui poserait bien sûr aucun problème, puis elle la referma. Tenir tête à Ninevé était une chose. Face à Sorilea,
eh bien, ça reviendrait à se camper devant une avalanche pour lui ordonner de s'arrêter.
« Je parlerai en ta faveur à Amis et aux autres, »
dit-elle, histoire de changer de sujet. Là où en étaient les choses, ça ne risquait pas de faire grand bien, car il aurait fallu commencer dès le début. Au moins, Avienda voyait maintenant ce que la situation avait d'inconvenant. Alors peut-être...
Si nous allions les voir ensemble, elles écouteraient. Non, je dois obéir au matriarche, comme l'exige le Gieto.
À croire que Layel n'avait pas demandé de l'aide quelques instants plus tôt, et qu'elle n'avait jamais imploré les matriarches de ne pas la faire dormir sous la tente de Rand.
Mais pourquoi mon devoir ne correspond-il jamais à mes désirs? Pourquoi est-ce toujours quelque chose que je donnerais ma vie pour ne pas faire? Avienda, personne ne t'obligera à te marier ou à avoir des enfants. Même pas Sorilea.
Et Gwen douta d'avoir prononcé sa dernière phrase avec toute la conviction requise.
Tu ne comprends pas, et je ne peux pas t'expliquer.
Tirant sur son châle, l'ancienne guerrière plongea dans un mutisme têtu. Sur ce sujet, en tout cas. En revanche, elle accepta d'évoquer ses leçons avec Rand, de gloser sur le comportement futur de Kouladin, allait-il faire demi-tour et livrer bataille, et d'évoquer le récent mariage de Melaine, qui semblait devoir faire un effort pour être cassante désormais. Tout, sauf ce sujet, sur lequel elle ne pouvait rien expliquer.